Le linceul des absents rwandais avec Dorcy Rugamba.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Jésus l'a dit bien avant que Dorcy Rugamba ne l'écrive, « Je ne suis pas venu vous apporter la paix, mais le glaive, je suis venu séparer le fils de son père. » Difficile de retourner sur le lieu du crime, là où père, mère, frères et sœurs ont disparu en trois quarts d'heure un certain 7 avril. À l'occasion de la journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, En sol majeur vient de lire « Ewa Rwanda », lettre aux absents que publie Dorcy Rugamba, l'intrus de la famille, puisque rescapé du génocide. Que nous est-il arrivé? La question, il la pose en metteur en scène de lui-même. Les tiroirs de la mémoire, il les ouvre en dramaturge presque avisé. Reste cette photo sur la couverture de ce livre qui paraît chez Lattès. Bonjour Dorcy Rugamba.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez nous décrire cette photo, s'il vous plaît?
C'est une photo qui date de l'année 1992. C'est deux ans avant le génocide. J'ai choisi cette photo parce qu'elle symbolise le temps du bonheur. Et sur cette photo, il y a les quatre survivants, parce que nous étions une famille de 10 enfants. Et nous avons survécu à quatre.
Donc il y a votre père, votre mère.
Il y a mon père, ma mère et 6 de mes frères et sœurs qui ont trouvé la mort le 7 avril au matin, au tout début du génocide.
Où êtes-vous sur la photo?
Je suis sur l'extrême gauche. Ce n'est pas une position politique, mais c'est une position sur la photo. Dans cette famille de 10 enfants, je suis le deuxième né.
When we're the rich men looking to the poor man's life, the rich been just enjoy and the poor done a fool.
Pour ouvrir votre ensole majeur, Dorcy, vous nous avez déposé cette petite Madeleine de Proust.
Exactement. Slim Ali. Slim Ali and the Hoodie Boys, c'est un chanteur de notre région, de l'East Africa, qui vient du Kenya, spécialement de la côte Swahili, sous l'océan Indien. Il était considéré à l'époque comme l'Otis Redding de cette région, mais c'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée quand j'étais jeune, dans les années 70. Et en réécoutant Slim Ali longtemps après, j'ai eu l'impression que toute ma vie à Boutaré, de mon enfance, me revenait.
Est-ce que vous auriez une image associée à cet avant-génocide?
Alors, il y a beaucoup d'images, évidemment, mais je vais en retenir une. J'ai été un maraudeur. J'ai volé beaucoup les goyaves. C'est une passion que j'avais quand j'étais tout petit, de partir à l'école brichonnière et aussi le goût et l'odeur des goyaves aussi, c'est une autre Madeleine de Proust pour moi, qui m'a fait remonter vraiment toute cette période d'insouciance.
M. Comme. Mot de la tribu.
Mes parents étaient des chouin-chouin, des chouin-nyo-nyo, des rats. Mes petites sœurs, des sikoya. Le plus jeune de mes frères, un sakayonde. Nous formions une famille de slurps. 4 chouam, 6 youf et les 2 zé. Nous étions complètement aboawawa les uns des autres. Voilà toute la vérité. Je voudrais être plus clair et plus complet, je n'y arriverai pas, croyez-moi. Aussi riches que puissent être les langues, je ne trouverai jamais des mots assez pleins pour les ressusciter.
Pour en sol majeur, un extrait de Ewa Rwanda, lettre aux absents. Dans ce livre, Dorcy, Vous rassemblez les mots que vous souhaitez dire à vos absents. Comment vous qualifieriez cette démarche? Est-ce qu'on est là dans les mots de la tribu? Est-ce que c'est une sorte, une forme de bouteille à la mer?
C'est à la fois une bouteille à la mer que je lance évidemment dans cette mer qui nous sépare entre les vivants et les morts, mais que je lance aux miens, à mon père, à ma mère, mais à travers eux, tous les absents. Mais c'est aussi un acte rituel. Il y a, sous la couverture de ce livre, un petit arbre qui se trouve sur la couverture. C'est un sycomore. Et il symbolise un petit peu cette pratique que les gens de la région du Rwanda, mais aussi des pays alentours, avaient de planter un grand ficus qui symbolisait un défunt. Et donc, ce livre aussi, ce geste d'écriture, c'est un arbre planté que je continuerai d'arroser en ma mémoire, justement. Des absents, mais qui sont en fait des présents aussi.
On ne peut plus présent.
On ne peut plus présent, exactement.
Vous n'avez, vous le racontez, aucun souvenir de la maison où vous êtes né. Et pourtant, il y a un souvenir un jour qui vous est réapparu. De quelle manière?
En faisant un exercice de travail d'écriture automatique. L'écriture automatique, c'est quelque chose qui a été testé par les surréalistes. On essaie d'écrire et de rattraper la pensée qui va beaucoup plus vite, évidemment, que la parole et surtout que l'écriture. Presque sans réfléchir, en essayant vraiment de trouver une vitesse d'exécution de l'écriture. Et puis, en me relisant, je me suis rendu compte que j'avais décrit une scène où ma mère et moi, nous nous trouvions dans une maison. J'avais, comme ça, comme un flash, me revenant cette image, justement, où je suis tout petit dans une bassine et ma mère qui me lave.
Évidemment, la question de la mémoire est au centre de cette écriture. La question du dire ou de ne pas dire également. Mais il faut comprendre qu'au pays, au Rwanda, il y a une culture de la dissimulation doublée d'une une peur politique. C'est ce que j'ai cru comprendre en vous lisant. Vous dites par exemple, certaines personnes n'étaient pas seulement mortes, elles n'avaient tout simplement jamais existé.
À l'époque, oui. Je pense que à l'époque, dans mon enfance, effectivement, le pays était un pays très fermé sur lui-même, et il y avait certains faits qui n'étaient pas dits en fait dans l'espace public.
Mmh. Pourtant, on y est très fort dans cette intimité, puisque page 27, on a l'impression qu'on est dans le Babil familial. Vous écrivez « Mes parents étaient des chouin-chouin, nous formions une famille de slurp ». On y est autour de cette table. Quel rapport vos parents, vous diriez, entretenaient avec le dire et le pas dire?
Ben, comme dans toutes les familles, hein, au Rwanda, je pense qu'il y avait une part, effectivement, de ce qu'on pouvait partager aux enfants, de ce qu'on gardait pour soi. Je crois qu'une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles j'ai écrit ce livre, j'ai eu peur, en devenant parent, de reproduire le schéma familial. C'est-à-dire de garder pour moi tout ce qui peut paraître douloureux. Mais il y a aussi, enfin, la vie est faite de plusieurs cercles. Il y a ce cercle, évidemment, de la petite enfance, quand on n'est encore pas avec un langage structuré, et qui, pour moi, peut-être porte en lui-même une plus grande densité que les langues totalement établies.
Mmh. C'est une bonne nouvelle, l'enfant est toujours là.
J'espère.
Alors évidemment, il y a la figure de votre père qui est centrale dans ce récit. Votre père et son histoire, son lien ambigu avec Dieu. D'abord, vous expliquez que dans sa jeunesse, il en a voulu énormément au père blanc.
Oui, parce que à l'époque, effectivement, quand il a commencé à faire des études, il n'y avait que l'école chrétienne et catholique. Voire, il y avait seulement ça comme enseignement supérieur. Et lui, il a fait les deux, il a fait les trois. Il a fait l'école primaire dans une école catholique, le secondaire, et puis il est parti au grand séminaire. Voire, il allait devenir prêtre. Pratiquement, il a quitté à 2 ans de l'ordination. Donc, on a failli ne pas exister, d'une certaine manière. Mais l'Église au Rwanda a eu une présence très, très forte, un pouvoir plus important que celui de la colonisation elle-même. Et surtout, elle s'est, comme un peu partout, liée à l'entreprise coloniale. Et donc, il y a des textes que j'ai retrouvés de mon père, surtout son premier recueil, où il est vraiment extrêmement anti-colonial. Et dans ce même mouvement, quand il a quitté le grand séminaire, il a quitté les ordres, il est devenu un athée farouche, anticlérical même, je dirais.
Et puis il est devenu un chrétien, dans la ferveur la plus totale.
Exactement, et ça c'est quelque chose que j'ai vécu, je le raconte, parce qu'effectivement, j'avais 12 ans quand j'ai connu une première partie de ma vie où mon père effectivement était athée. Farouche, ne mettez pas les pieds dans une église, regardez ça avec beaucoup de distance. Et puis, un beau matin, en 82, il a changé complètement d'axe et il s'est reconverti. Et il est devenu vraiment un grand croyant. Lui et ma mère ont constitué alors, à partir de ce moment-là, un couple fervent. Très chrétien, très engagé dans les actions de charité aussi.
Vous lui en avez voulu à votre père ?
Je lui en ai voulu parce que c'est quelqu'un à qui je m'identifiais très très fort. Et c'est très heureux en fait que la foi, c'est une chose intime qu'il est très difficile de partager. Donc c'était son chemin, je ne pouvais pas comprendre son cheminement.
Oui. Vous avez vécu ce qu'on appelle aussi le doute peut-être. Vous avez été dans un doute en tout cas vis-à-vis de... Quelle vocation vous alliez embrasser ? Donc, je parle de l'adolescent, hein, j'imagine, oui. Le jeune adolescent. Donc, dans le doute, vous avez navigué entre deux mondes, avec d'un côté ça. Et de l'autre, ça. Si j'ose dire, les deux robes vous vont bien, Dorcy Rugamba.
C'est possible.
Mais c'est pour dire qu'entre cet Alléluia qui est en Kinyarwanda, Alléluia de Handel,
oui.
Et le Billie Jean de Michael Jackson, qui a déferlé donc évidemment sur la planète et donc jusqu'au Rwanda, vous avez hésité.
J'ai beaucoup hésité. J'ai suivi presque le même chemin que mon père, alors que j'ai grandi dans une culture chrétienne, très catholique. Ma mère était très chrétienne. Et puis j'ai fait aussi le petit séminaire, c'est un internat qui est une pépinière vraiment de diocèse pour former des futurs prêtres. Et la culture catholique était omniprésente. Les chants grégoriens, la musique classique, et surtout j'ai un prêtre qui était notre professeur de musique, qui nous a bercés avec les organistes, avec Handel, avec Bach, avec Mozart, avec Beethoven, tous les soirs. Et plus tard, j'ai réalisé que c'était ma culture aussi. Aujourd'hui, réécouter Handel, et surtout aussi de le redécouvrir en Kinyarwanda.
Ça vous fait quoi ?
Ah, beaucoup d'émotions. La langue rwandaise, c'est ma langue maternelle. C'est Alléluia de Handel, c'est un morceau que j'ai écouté à un âge où on est très sensible, où les choses s'impriment dans le corps et dans l'esprit. Donc c'est ma culture fondamentalement. Et là, c'est très heureux, c'est lié. Et puis, un jour, a déferlé complètement, alors que j'étais adolescent, Michael Jackson. Et il a déferlé sur les ondes, pratiquement en bousculant tout. Il y avait sa musique, son monde, son accoutrement, son style.
Donc il y avait des Michael Jackson rwandais, on est d'accord.
On a vécu complètement avec lui, en essayant de s'habiller comme lui, de devenir aussi talentueux qu'il pouvait l'être.
Dorcy Rugamba, vous nous avez envoyé une archive émouvante. C'est la voix de votre père qui va vous projeter, nous projeter aussi dans une mémoire sépia. Burumbe twanya twanye n'abarazuru murarugire intego mwese aho mujya hose babere umutako mwiza wa rubarangarama mwarindane
Bora bishaka kutambamira urwo rukundo. Murakomeze mutwaze ntabwo nzabahana
Zahorana nawe simuri bibarwanya
Wa mwanzi wicya tujye ubakurura mu cyaha
Nzagukubita ijanja mwimure mure
Muhumure naratsinze n'imikuruku
À l'occasion de la Journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, nous sommes réunis ici à RFI pour un sol majeur autour de ce chant que vous allez nous présenter, Dorcy.
Oui, c'est le dernier chant, c'est le chant du cygne pratiquement, si on peut utiliser cette image. J'ai réalisé longtemps après qu'il est parti là-dessus.
Cyprien Lugamba.
Cyprien Lugamba,
votre père.
Mon père, qui a laissé un répertoire de plus de 400 morceaux. Après sa conversion, mais je crois que même avant, disons que comme poète, c'est vraiment le poète de l'amour. L'amour revient, il est revenu d'une manière insistante.
Urukundo.
Urukundo, dans son œuvre. Et ce refrain qui dit « Mes enfants, je vous laisse l'amour en héritage, que ce soit votre identité dans les moments de ténèbres comme dans les moments de joie. » Longtemps après, j'ai réalisé que c'était vraiment un testament, qu'il ne pouvait pas nous laisser d'héritage plus important et que sans doute, anticipant les ténèbres qui allaient venir, et le doute et la difficulté de l'après, il nous avait vraiment presque indiqué le chemin et la seule voie possible.
Car il savait la menace qui planait.
Il savait la menace qui planait, lui-même était menacé. D'ailleurs, il y a plusieurs reprises et dans plusieurs chants, il évoque sa propre mort. Mais ça va bien au-delà, je crois que c'est son enseignement, c'est-à-dire que comme homme de foi, mais comme homme de culture, il a toujours insisté sur cette idée qu'il n'y a que l'amour finalement qui vaille la peine. Nous vivons pour célébrer, et je crois que c'est ce que je retiendrai de lui.
Oh my father, disappointed father. Betrayed and rejected ruler of the universe.
I want to pray.
Qu'aimeriez-vous qu'on lise comme épitaphe sur votre tombe?
Dorcy Lugamba.
Ah, j'y ai jamais pensé. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise? Il a aimé. Éperdument.
Papa a bien travaillé.
Il a bien travaillé, je pense.
Où reposer pour l'éternité? Est-ce que c'est aussi une question?
Où reposer pour l'éternité? Dans le cœur des gens. Je le dis comme ça, c'est pas une formule. Hein. Quand je suis retourné au Rwanda, que j'ai été dans notre maison, que je me suis rendu compte que même les traces de vie avaient totalement disparu. Qu'il n'y avait plus rien, même pas un lacet, même pas une chaussure d'enfant qui aurait échappé au pillard. Pour que je la regarde comme relique, et je me suis posé la question, mais finalement, cette vie, si dense, s'est totalement évanouie, où est-elle en fait? Puis j'ai réalisé, en rencontrant plus tard même des enfants qui sont nés après, qui avaient appris par cœur la poésie de Lugamba, je me suis dit, tiens, là, il réside là dans le cœur des gens. Et c'est un endroit magnifique, comme lieu de sépulture.
Puisqu'on est sur la question de l'au-delà, de la mort, vous avez écrit un kadish pour l'Afrique, qui se veut, dites-vous, une prière incantatoire pour exorciser l'esprit.
Il y a une certaine Afrique, il y a plusieurs Afriques évidemment, mais on a beaucoup déchanté après les indépendances. Parce qu'une fois que les pouvoirs coloniaux et impériaux étaient partis, le soleil des indépendances, comme on disait, on imaginait bien que les victimes hier allaient se retrouver dans un monde meilleur. Ça n'a pas été le cas. Le Rwanda est presque emblématique de ça, de l'après, où les pays ne retrouvent pas la paix, où ils ne sont pas à la hauteur des espérances justement que les générations de nos pères ont pu chérir. Et il y a cette Afrique-là qui s'est retrouvée dans la violence, que j'ai voulu, dans un acte de poésie, convier à partir.
La violence ?
Pas que. Tout ce qui nous a empêchés justement d'avoir la totale plénitude de ce continent magnifique, avec des peuples d'une culture extraordinaire, rempli d'opportunités, mais qui n'est pas à la hauteur de son histoire. Et donc, Kadish, c'est pour dire qu'il y a une certaine Afrique qu'on aimerait ne plus jamais exister.
Mais pourquoi Kadish ? Pourquoi s'appuyer sur un rituel juif ?
Moi, je me trouve à l'intersection de plusieurs croyances. Je ne revendique pas une seule. Je ne revendique pas une seule. Je suis très sensible à toutes les croyances et je m'approprie à la fois la prière juive, comme ça aurait pu être une prière bouddhiste, pour dire cette Afrique-là, autant la congédier qu'elle ne revienne pas. Après, c'est un kadish totalement réinventé, une logorée sacramentelle, comme je dis.
Inzira yabaye sinzi iherezo, uwa rero uratindagiye agira ngo izuba rye ni ryo ryinshi rirusha irya se kwaka inzora bwagoroba irye rikarenga. Nous sommes arrivés dans une impasse. L'homme d'aujourd'hui s'érige et se lance. Il croit son soleil plus ardent, plus rayonnant que celui de son père. Le soir venu, son soleil s'éteint. Dusaniya hutsiro yurguri igira ngo ibimbuye uwo mubande nahubwo n'umukura w'izindi zikuruza yo zanogereje. Nous ressemblons à une génisse qui voit une prairie pour la première fois. Elle croit découvrir cette vallée alors qu'elle foule une herbe rose, un vieux pâturage pelé par ses aînés. Harugendo rugera hirya n'umuhanda gihogera utarusha intambwe intera z'umwe nibahawe kurambura. Aucun voyage ne mène ailleurs. Ce n'est qu'une route infinie, pas plus étendue que le pas d'un seul homme s'il lui est donné de parcourir. Turasa n'ifi zo mu kizenga zigira izazo ziti muzoge mu ruriherezo ry'iyi nyanja naho ziriruka aho zivuye boshye izarozwa iyo muzunga. Nous sommes comme des poissons d'eau douce qui disent au leur de nager jusqu'aux confins de l'eau pour explorer les contours de la mer alors qu'ils tournent sur leurs pas comme assignés à se tourner dans le tourbillon d'un étang.
Pour un seul majeur, on est en train de feuilleter Ewa Rwanda, lettre aux absents qui paraît chez Lattès, et vous venez de nous lire d'Orsi Rugamba le poème Ami Bukiro, que votre père a écrit en 1964. Que dire de ce poème qui commence par « Nous sommes arrivés dans une impasse »
C'est un poème qui fait partie du recueil Ami Bukiro, dont le titre, si on essaie de s'approcher vraiment de la langue rwandaise, peut pouvoir dire « Mémoire ». C'est un livre écrit dans une période dur de la vie de mon père, où il avait perdu son amour. Plus que son amour, d'ailleurs, c'était vraiment l'amour de sa vie. Sa première femme. Elle est morte juste la veille des noces, pratiquement la veille, il y a quelques jours des noces. Et c'est un recueil dans lequel je reviens très souvent pour retrouver sa part intime, de laquelle il a pu aussi se sortir grâce à l'écriture. Et donc, il me parle beaucoup.
Alors, votre père est une personne de culture. C'était un passeur qui souhaitait la renaissance de la culture rwandaise. Et il faut nous parler de ce lieu qu'il avait créé, son Itorero, où je crois il y a enseigné les valeurs Duburere, Dubufura et Dubutore qui fondent l'humanisme rwandais.
Exactement. L'itorero, c'est traditionnellement quelque chose qui existait, qui était à la fois une fabrique d'artistes, mais une école à l'ancienne, avant qu'on arrive l'école moderne avec la colonisation. Et je me souviens, parce que j'ai grandi à l'intérieur de cette fabrique à l'âge de 8 ans, qui était un lieu dans une clairière, dans une forêt qui s'appelait la forêt des hiboux, Nyirabihu Nyira. Et l'ambiance qui régnait dans cet endroit où on était vraiment à plusieurs, parfois jusqu'à 300 danseurs.
Une école d'art.
Une école d'art. Souvent, il y a un parallèle qu'on peut faire entre la manière, d'ailleurs, la transmission artistique se fait en Afrique et en Asie. C'est toujours dans un monde totalement global. Quand celui qui vient apprendre une pratique artistique n'est pas là que pour apprendre une pratique artistique. Il est là au contact d'un maître qui lui donne aussi un rapport à la vie, qui est une philosophie aussi.
Oui, vous appeliez votre père à ce moment-là Databuja, ce qui veut dire père, mais aussi maître.
Exactement.
Alors, par exemple, dans cet art de l'Ubutore, qu'est-ce que vous y appreniez? C'est un art qui est né, vous le racontez, d'Orsi, au sein des garnisons militaires.
Oui, alors l'art des Inhore, on l'a beaucoup traduit par la danse guerrière, parce que les danseurs Inhore dansent avec des armes blanches aussi. La guerre est un thème fondamental dans la culture rwandaise, au même titre que les lavages, par exemple. Ce qui est transmis là-dedans, c'est le courage. Je crois que la danse rwandaise permet réellement de se confronter avec soi. Et ça, on le trouve dans les termes même que l'on trouve dans la danse rwandaise. Il y a la part qu'on appelle kwikunda, c'est-à-dire s'aimer soi-même, quelle que soit sa condition. Ou kwivuga, ce qui veut dire parler de soi. Chaque danseur a son propre panégyrique. Et le panégyrique, il est pratiquement construit sur trois parties. Ce que j'ai déjà fait, ce que je suis en train de faire, ce que je prévois de faire demain. Et donc, il y a une part à l'intérieur de cette danse qui va au-delà même du mouvement, qui est une forme de configuration de son être, de sculpter une part de soi.
Et c'est une philosophie.
C'est une philosophie de vie. Et d'ailleurs, je le dis dans le livre, que j'ai retrouvé dans d'autres philosophies. Et je pense, je suis quelqu'un de très universaliste, je pense que les cultures se répondent, peuvent se regarder en miroir. Au petit séminaire, je lisais sous les bancs de l'église des bandes dessinées durant l'office. Je n'interrompais ma lecture que pendant la communion, le temps d'avaler le corps du Christ, et je replongeais dans les dessous de Manara. Dans l'islam, avant même d'entrer dans une mosquée, il faut d'abord se déchausser, se purifier, faire ses ablutions de la tête aux pieds tout en récitant des prières. Une fraternité silencieuse s'installe déjà aux fontaines. Vous devez porter des habits propres, neufs. Entrez du pied droit à l'intérieur de la mosquée. Déclamez les 99 attributs de Dieu en égrenant un chapelet. Il est impossible que vous restiez tout à fait vous-même après. Vous êtes ailleurs. Vous êtes un autre. Et il y a la prière, le Coran, psalmodié, chanté. Pasolini parle de mots que l'on mange. Il parle de manducation de la parole.
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
Et oui, car voilà que vous, d'Orsi, l'enfant de Daf Rose et Cyprien Rugamba, actif au sein du renouveau charismatique catholique, vous vous êtes converti à l'islam. Un mot d'abord, avant d'en parler, sur ce que vous nommez la puissance du verbe qu'on mâche quand on psalmodie le Coran.
Exact. Évidemment, je commençais à réciter le Coran sans parler l'arabe.
En cachette?
Pas en cachette, en fait c'est arrivé d'une manière presque inattendue. J'ai fait un premier voyage en camion qui est un voyage qui me restera à vie. À l'époque, il n'y avait même pas de route asphaltée. Je suis parti avec un camion citerne qui allait chercher du fioul sur la côte est, sur l'océan Indien. Et je restais pendant des jours, des semaines dans les villages. Et en Tanzanie, à l'époque, quand on n'avait pas un gîte, on pouvait toujours aller à la mosquée et y dormir. Y trouver un refuge et rester le temps. Et ça m'a permis d'avoir ce premier contact réellement avec la communauté musulmane, parce que la communauté musulmane n'était pas très grande au Rwanda. Puis plus tard, après ça, je suis tombé dans le Coran d'une manière totalement fortuite, dans la bibliothèque de mon père, où j'ai commencé à lire ce livre que je ne connaissais pas, mais qui avait une réputation. Comme je dis, il y a un côté sulfureux qui était lié au Coran. Bah, je crois que ça le reste encore. Le Coran est toujours en débat. On a l'impression que c'est un livre de guerre. Mais ce n'est pas ce narratif-là qui m'importait.
C'est le rituel lui-même?
C'est d'abord la lecture du Coran. Et à travers ça, je suis allé pour la première fois voir, être en contact et rencontrer ce rituel qui est totalement différent de celui dans lequel j'avais grandi. Et ça m'a ému, changé, et de fil en aiguille, effectivement, je me suis converti.
Comment cette conversion a été accueillie par vos parents?
Ça a été un choc, une découverte inattendue. Donc on ne s'attendait pas du tout à ce que le fils d'une famille très chrétienne se convertisse à l'islam. Surtout que, comme la plupart des prosélytes, j'en faisais beaucoup trop. Donc j'ai changé mon accoutrement, je me suis mis une djellaba, j'ai entretenu une barbe, j'avais une calotte. J'ai changé tout de suite d'aspect.
Pour que le message soit bien reçu.
Parce que j'étais tellement dans une phase mystique. Et je crois que ça a fait l'effet d'une bombe. Et surtout, j'ai eu l'impression vraiment que ça faisait très très mal à ma mère.
Vous dites, Dorcy, je ne peux me libérer de mes obligations envers mon père. Je suis son homme lige. Je ne puis tourner ma lance contre lui. Et je me demandais, entre la puissance de l'islam sur votre âme et l'idéal de cet homme chrétien qui était votre père, comment vous négociez?
J'avais 22 ans quand j'ai rencontré l'islam.
Et aujourd'hui alors?
Alors, je garde une passion vraiment pour la culture musulmane. Donc, en même temps que comme pour la culture chrétienne, j'assume complètement ces deux héritages. C'est ma culture, j'ai une culture hybride qui a puisé à beaucoup de sources. Par contre, je ne suis plus dans l'affirmation d'une vérité absolue. Par contre, je reste très sensible aux croyants, véritables, vraiment. Les gens qui ont la foi, je les admire beaucoup parce qu'ils sont dans une quête et une recherche d'un meilleur soi. Et ça, je suis sensible à ceux qui croient profondément qu'ils puissent être musulmans ou chrétiens ou bouddhistes. Il y a beaucoup d'instrumentalisation de la religion, évidemment, mais à l'intérieur, justement, des pratiques religieuses, il y a de véritables croyants. Je crois que mes parents en font partie et que c'est à l'intérieur de cette pratique, moins le dogme, que la quête de l'amour.
Ce fameux 7 avril 1994, Dorcy, vous êtes à Boutaré, vous n'êtes pas dans la maison familiale où 20 militaires de la garde présidentielle entrent armés pour massacrer toute votre famille. Cette scène qu'on ne lira pas en sol majeur, comment vous avez souhaité l'écrire?
Directement, mais sans m'apesantir là-dessus, je ne voulais pas écrire un roman qui propose des images graphiquement dures. Ça ne m'intéresse pas. Et ce livre, d'ailleurs, n'est pas un livre de survivants ni de rescapés du tout. C'est une réflexion longtemps après. C'est un acte rituel, un culte des ancêtres comme ils pouvaient s'en pratiquer au Rwanda et qui était fait en deux parties en général. C'est-à-dire, la première partie, c'est de raconter la vie des défunts à ceux qui ne les ont pas connus, aux vivants. Et parmi les vivants, je compte mes propres enfants, à qui je dois une part de vérité, Mais cette part de vérité, ce n'est pas la mort que j'ai envie de leur partager, c'est la vie. Qui étaient-ils? Vos grands-parents, vos oncles, vos tantes que vous n'avez pas connus? Quelle était leur mission sur Terre? Qu'est-ce qu'ils s'étaient donné comme ambition, comme rêve?
La sève qui continue de circuler.
La sève, exactement. Qui étaient-ils, en fait? Et puis la deuxième partie d'un culte des ancêtres, c'est de raconter aux défunts la vie de ceux qui sont restés. C'est pour ça que ça s'appelle « Lettres aux absents ». Où je raconte effectivement le temps du monde après. Et c'est comme ça que j'ai voulu faire un hymne à la vie et non pas un récit sur la mort qui ne m'intéresse absolument pas du tout.
Quelle est cette voix, Dorcy?
Alors ça, c'est un chant qui appartient à un genre qu'on appelle Inuit, quoi, au Rwanda. Et c'est un chant typique du sud, d'où est originaire de mon père et une bonne partie des danseurs avec lesquels j'ai grandi, qui me ramène effectivement à ce ballet qui s'appelait Amasibina Makombe et aux danseurs avec qui j'ai grandi. Mais surtout, c'est ma première émotion
artistique.
Et j'avais 6 ans, où j'ai vu pour la première fois la puissance de la scène. Et c'est un danseur qui s'appelait Sebu Djigira, qui était déjà très âgé, parce qu'il avait une chevelure blanche et une toison sur la poitrine blanche. Et en général, il dansait torse nu avec juste une tunique. Et alors ce petit homme qui ne payait pas de mine, justement, quand on l'a rencontré dans le civil, et à un moment donné, on lui a donné ce chant, Mundu. Et il s'est emparé totalement de la scène et j'ai eu l'impression, alors que j'étais encore tout petit, qu'il remplissait complètement tout l'espace, qu'il devenait plus grand que la scène elle-même. Et puis il s'est arrêté au milieu de la danse et il a fait son panégyrique qui disait « Celui qui est mort est parti trop tôt, il est parti sans voir ces bouillers-là, il est parti sans me voir ». J'ai trouvé cette assurance extraordinaire de cet homme, comme s'il nous disait « Tiens, je suis la 8e merveille du monde ». Et la puissance de ça, où je me suis dit « Tiens, cette scène, cet endroit particulier, la danse, ce qui s'exprime là, dans ce corps et dans cette parole, dans ce verbe, est capable de faire vraiment d'un simple mortel un demi-dieu ». Et je crois que la scène n'a plus cessé de m'attirer depuis.
Oui, scène primitive, ça s'appelle. Faire du théâtre, c'est plonger dans l'âme humaine. Dites-vous, vous avez joué, entre autres, en Pateba, sous la direction de Peter Brook, hein, si
exact.
Je ne m'abuse. Shakespeare, Coltès, James Baldwin, et de tous les personnages, pourquoi vous dites que c'est celui de James Baldwin le plus difficile?
Très difficile à incarner. D'abord parce que c'est quelqu'un d'une intelligence fine. Donc il y a pas mal d'images qui existent où l'on voit Baldwin parler, on a l'impression qu'il est incandescent en fait, c'est un être.
Il est intersectionnel on dirait aujourd'hui.
Il est intersectionnel et puis surtout il est inclassable. Baldwin c'est quelqu'un qui est né à Harlem, qui avait un beau-père violent, qui était mis quasiment dans une église baptiste comme prédicateur déjà tout petit, enfant. Qui était gay dans un milieu noir, effectivement, qui finalement il ne pouvait pas trouver un endroit d'intégration totale et qui a dû quitter totalement les États-Unis à cause du racisme qu'il subissait, qui a fini par trouver son pays dans la littérature.
Bon, et alors l'acteur, comment il se cale dans quel endroit pour jouer James?
C'est la grande question.
C'était la grande question.
Comment est-ce qu'on rentre dans un personnage comme celui-là? Donc c'est un chemin très 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 long. Mais si on trouve le chemin, alors la pensée de Baldwin est extraordinaire. Moi, le chemin, la porte d'entrée a été par le verbe. Et puis, il y a surtout l'autre porte d'entrée. C'est sa générosité absolument incroyable. Quoi qu'il ait pu traverser Baldwin, il a une générosité d'être en lui-même qui en fait un penseur universel.
Je trouvais intéressant que l'auteur, dramaturge, acteur que vous êtes dise que, évidemment, revenir sur les lieux du crime, du génocide, avait été longtemps impossible pour vous. Parce que vous comparez ce geste-là à un acteur pour qui ça n'a pas de sens de revenir sur un plateau sans son personnage.
Oui, parce que c'est un lieu de vie. Je parle beaucoup des maisons. Les maisons sont des lieux de vie. Ils ont été habités, ils sont encore... Il y a une résonance dans une maison, les murs. On a l'impression, quand on rentre dans un endroit, il y a un écho qui se dégage de ça.
Idem au théâtre, quand on finit une pièce, on ne raccroche pas le costume du personnage comme ça.
En tout cas, quand tu nous retournes et que ces lieux qui a pu vivre est déserté totalement et qu'il n'y a plus tout ce qu'on a pu vivre dans les loges, il n'y a plus personne et les costumes sont là, ils sont dévitalisés. Il y a un pincement au cœur. Et donc on se dit, tiens, elle a cessé vraiment de vivre cette pièce. Elle n'existera plus. Évidemment, le théâtre, c'est un art éphémère. C'est une fleur de l'instant. Et il y a quelque chose comme ça qui est un pincement au cœur. Mais on sait qu'on va renaître ailleurs aussi quand on est acteur.
Mais vous avez travaillé sur cet impossible de façon incroyable puisque vous êtes revenu avec votre ONG Rwanda Art Initiative que vous avez installée dans la maison de vos parents. Quel sens ce geste a de revenir avec cette ONG?
Parce que je trouvais que c'était intéressant que cette maison continue à faire son travail, jouer son rôle, qu'il puisse continuer à abriter une vie. Et puis alors, quand j'y suis, que je vois défiler des jeunes qui arrivent avec leurs rêves, et qu'il y a un acte de transmission parce qu'il y a des aînés. Cette ONG Rwanda Arts Initiative est animée aussi avec des gens avec qui j'ai grandi, qui sont devenus plus que des amis, une famille, avec qui on travaille sur des projets. Et puis il y a des jeunes qui nous rejoignent, qui viennent à l'écoute, à la rencontre aussi de leurs aînés. Cet acte de transmission qui se fait là, de fabrique, de rêve et de sens. Je ne pouvais rêver de mieux, de voir une continuité. C'est aussi, d'une certaine manière, vaincre réellement le crime et les meurtriers.
Oui, j'allais le dire, la maison a gagné sur la mort.
Il a gagné sur la mort, parce qu'on ne peut pas déraciner un poète, c'est impossible. Parce que sa vie est bien au-delà des conditions végétatives de l'être.
Écoutez-les, soyez sur vos gardes. Regardez-les, mais méfiez-vous. Ces appareils qui propagent l'information, ce sont eux qui infectent les cœurs et souillent les esprits. Une hyène rusée se met à beugler à la manière d'une vache. Nous sommes dans leur tanière. S'il vous plaît, soyez vigilants. Nous n'avons pas eu de funérailles comme il est de coutume. Nous avons été dépecés et jetés dans des fosses communes. Nos cadavres disséminés à travers tout le pays. Chiens et vautours les dévorèrent, puis ils laissèrent les os exposés au soleil. Qui cherche la vérité? Dit les ombres. Qui réclame justice? N'accepte aucun pardon. Tant de morts. Tant de chagrins. Tant de familles exterminées. Et il faudrait oublier. Le feu est éteint, c'est vrai. Mais pour combien de temps? Le feu est éteint, c'est vrai, mais pas la peur. Et que dire du feu à l'intérieur?
Un court extrait sur RFI pour En sol majeur de Rwanda 94 avec votre compagnie de Liège, d'Orsi Rugamba. Quel était le point de vue de cette œuvre collective?
Alors, le groupe OV est une compagnie de Liège qui a été fondée par Jacques Delcuvelry, avec plusieurs artistes, dont son épouse Marie-France Collard. Moi, j'ai rejoint cette aventure en 98-99, au moment après le génocide, où la question de la nature du crime était toujours encore en débat, y compris aux Nations Unies et dans beaucoup de médias. Et il y a eu cette initiative qui est partie de Liège avec plusieurs artistes de différentes nationalités, belges, français, mais qui ont souhaité aussi que des Rwandais puissent se joindre à eux. Et je suis arrivé pour écrire dans ce travail qui était aussi un travail de recherche de la vérité en réalité. Nous étions tous frappés de sidération après ce qui s'était passé. Il y avait beaucoup de questions latentes. Et au fil du temps, ce geste-là avait, comme pour le résumer ce mot, une tentative de réparation symbolique envers les morts à l'usage des vivants. Et c'est ça, vraiment, a incarné ce travail de 6 heures de représentation sur scène à une époque où, et c'est encore le cas, beaucoup de gens n'avaient pas nécessairement les restes des leurs, ne pouvaient pas leur offrir une sépulture ou des funérailles, et que le théâtre arrivait aussi comme un recours pour proposer à la fois vraiment une réparation symbolique, mais aussi un rituel, au fond, qui pouvait participer au travail de deuil.
Reste des questions ouvertes, une seule que j'ai chopée au passage en écoutant cet extrait de Ronda 94. Le feu est éteint, mais pour combien de temps ?
C'est tout le travail que nous avons tous à faire. Mais cette question qui se pose au Rwanda, elle se pose partout, elle se pose ici. Nous assistons ici, en Europe, par exemple, on recule dans le temps de ce qu'a été la Shoah. Les témoins sont de moins en moins nombreux. Et plus le temps recule, plus on voit quand même certaines idées qui ont mené l'Europe à s'autodétruire, à détruire une partie d'elle-même, revenir sur le devant de la scène. C'est la question qui reste à chaque fois quand on évoque ce genre d'événement. Pour combien de temps encore la conscience commune va nous tenir éloignés de la fabrique de la mort ?
Merci de cette belle visite en sol majeur, d'Orsi Rugamba. Je rappelle que vous publiez chez Lattès Ewa Rwanda, Lettres aux absents. Un en sol majeur à retrouver en podcast sur votre application Pure Radio.